Et une nouvelle voix sur France Inter pour cette revue de presse. Claude Ascolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Le transfert de Mbappé au Paris Saint-Germain, Claude, tourmente l'équipe ce matin.
Et c'est le moment où le quotidien sportif doute et sans doute se dégoûte un petit peu de ce qu'il doit raconter. Ambivalence des sentiments, amertume, cynisme économique, ce sont les mots de Vincent Duluc, qui est à la fois le sage et l'éditorialiste de l'équipe. Le fait même que Monaco ait accepté de vendre son joueur à son adversaire direct rappelle que tout le monde a un prix, c'est ce qu'écrit le journaliste désabusé. Et là, on est exactement dans la fonction et dans la limite de la presse. Amener du doute quand les lecteurs n'en veulent pas forcément. Le lecteur supporter, il a plutôt envie de s'enthousiasmer. Alors l'équipe, dans sa une, le ménage ce supporter avec ce mot vertigineux, à la fois enthousiaste et ambigu, comme le réel. Parce qu'il faut bien le traiter, le réel, et le réel est curieux. Le réel, on le trouve dans les pages Île-de-France du Parisien. C'est un reportage sur la Vinci Cup qui avait lieu ce week-end à Meudon, au stade Marcel Beck. C'est un tournoi pour des gamins de moins de 15 ans, c'est-à-dire âgés de 3 ans de moins que Mbappé. Dans ce tournoi, l'OM a battu Tottenham, ce qui veut dire que les minots, ce week-end, se débrouillaient mieux que les adultes à Marseille. Bref, parmi les spectateurs, nous dit le Parisien, il y avait des recruteurs, des scouts et des agents. Et l'article est titré ainsi. Et eux, rêvent-ils déjà de transfert à plus de 100 millions d'euros? Réponse de Yacine de Meudon qui a marqué contre le Paris Saint-Germain et espère que le PSG s'en souviendra. Ça fait toujours rêver d'être transféré un jour. Et la maman de Hamza, joueur du Havre, a peur. Même si notre enfant a le talent de Neymar, tout cela est très aléatoire. Oui, mais madame, s'il l'avait ce talent.
La presse est aussi sanglante ce matin, Claude.
Et c'est sa raison d'être à la presse de renifler l'odeur du sang. Cette presse, ces médias qui étaient critiqués ce week-end à Marseille, à l'université d'été de Jean-Luc Mélenchon, faut-il appliquer le dégagisme aux médias? Se demandaient les insoumis, et ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Réponse sur le web, la conférence est en ligne. Eh bien, cette presse dans la vraie vie, et ce matin, renifle plutôt le sang du président Macron. Et c'est Libération qui le résume le mieux, ils l'ont fait exprès évidemment à Libé. La une est coupée en deux. D'un côté, massacre à la tronçonneuse, hommage rendu à Tobe Hooper, le cinéaste de l'horreur, décédé ce week-end. Et de l'autre côté, Macron, président des riches. Oui, point d'interrogation bien sûr. Et Macron, président des riches, est découpé menu en page intérieure du quotidien de gauche. Sauf qu'en réalité, tout le monde s'y met ce matin avec un appétit unanime et émouvant. Rentrée à haut risque, le Figaro. Les pièges de la rentrée, disent les Échos qui en rajoutent sur un président confronté à la dure réalité. L'Opinion nous informe, c'est la fin de Jupiter. On parle beaucoup de communication dans les journaux, comme si ça sentait déjà la fin. Et on liste les choses trappes de la rentrée. Le budget qui, pour le Parisien, sera saignant et qui, pour le Figaro, est une équation impossible. Et le code du travail, l'assurance chômage, la sélection à la fac. Ouf, heureusement que dans les Échos, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, nous promet de l'intelligence artificielle pour sauver l'école. Ça donne un peu d'air. Si vous regardez bien le paysage, Nicolas, en réalité, vous avez d'un côté les journaux libéraux, ou de droite, comme vous voudrez, qui demandent à Macron, foutu pour foutu, de faire le boulot, c'est-à-dire les réformes libérales. Place à l'action, exige l'éditorial du Figaro. Quant aux journaux de gauche, ils disent qu'il est déjà Macron de droite et on s'occupe alors dans cette presse de réinventer la société et des luttes. L'Humanité nous raconte un jeune écrivain de 26 ans qui publie un roman d'apocalypse, Ostwald, mélangeant cas social et catastrophe nucléaire. Il s'appelle Thomas Flao et il a peur, évidemment, de l'avenir dans la France de Macron. Quand un Mediapart en ligne, il publie un reportage sur l'université d'été des Passons-nous, c'est un réseau de collectifs de quartiers populaires. Ça se passait à Angers, on croisait des familles roms expulsées, des militants de Nuit Debout et des zadistes. Tout un programme dans cette rentrée du massacre.
Oui, Tom Hopper, on va en parler d'ailleurs et on en parle aussi dans la presse.
Et Libé en parle très très bien dans un gros dossier qui est culturel et générationnel. Pourquoi générationnel? Parce que Hopper tournait The Texas Chainsaw Massacre, massacre à la tronçonneuse. En 73, c'est l'année de la naissance de Libé. C'était encore la guerre du Vietnam, c'était la contre-culture américaine qui s'introduisait déguisé dans l'horreur. Et Jean-Baptiste Torret raconte le parcours d'un homme qui avait réalisé son chef-d'œuvre à 28 ans avant de s'enliser et de s'oublier à Hollywood. Il savait, dit Libé, qu'il avait sa part dans l'échec des idéaux des années 60. Et si on s'en change de génération et si on va sur Slate, on nous parle encore, mais autrement, de Tobe Hooper. C'est Thomas Messias qui a 33 ans qui raconte ses années collège quand on se prêtait la cassette d'un film interdit. Tu regardes ça tout seul, pas quand ton petit frère est là. Tu en prends soin, si tu l'abîmes, mon frangin me tue. Tu la planques bien, c'est un film que tes parents ne veulent pas que tu vois. Et ce film d'horreur interdit a fabriqué des cinéphiles. Ça existe encore, les cinéphiles.
Mais oui, on lève la tête, Claude, encore dans les journaux et on regarde le monde.
Et c'est pour ça qu'on les lit, pour ne pas rester sur la seule actualité. Très rapidement, Libération publie une interview de Stephen O'Brien. Il est secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires. Il parle de la Centrafrique où milices chrétiennes et musulmanes s'affrontent. Les signes avant-coureurs d'un génocide sont déjà là. Le Figaro nous raconte l'agonie de la mer morte qui s'évapore au soleil entre Israël et la Jordanie par la faute des hommes. Et pourtant, cette eau salée qui, selon la Bible, pris la place des villes pécheresses Sodome et Gomorre, témoignent de notre éternité. Enfin, le New York Times, édition européenne, décrit comment les Chinois rachètent la Grèce à la baisse. Pendant que l'Europe pressurait la Grèce, quand l'Allemagne traitait la Grèce comme un délinquant de la zone euro, la Chine la considérait comme son allié le plus fiable en Europe et elle a investi en marche et ça commence à payer. Et ceci est une preuve de notre déclin, sauf si.
Merci Claude Askolovitch, c'était la revue de presse.